Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous en parlait dès ce matin chez Thomas Soto. On célèbre aujourd'hui le 400e anniversaire de Nicolas Fouquet. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On connaît Fouquet à travers le château de Vaux le Vicomte et à travers les jardins de Vaux, bien entendu. Nous allons en parler tout à l'heure en compagnie d'Alexandre de Vogué. J'ai convié aussi Thierry Sarment à nous rejoindre. Avec lui, nous allons revivre le procès du surintendant des finances de Louis XIV. Avant cela, je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec cet homme. Je le surnomme, allez, l'homme à l'écureuil.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je ne vous étonnerai pas en vous disant que Fouquet est issu d'une excellente famille, une famille de la magistrature. Son père, François Fouquet, était conseiller au Parlement, maître des requêtes. D'ailleurs, il finira par devenir conseiller d'État. Il était associé dans la Compagnie des Indes occidentales. Enfin, vous voyez, une personnalité tout à fait éminente. Mais il faut dire que lui-même était fils d'armateur et petit-fils de marchand de draps. C'est intéressant de voir que la famille Fouquet s'inscrit exactement dans ces ascensions sociales qui s'effectuaient sous l'Ancien Régime à travers plusieurs générations. On est dans un processus ascendant. Du reste, l'emblème de la famille, c'est le Fouquet, c'est-à-dire c'est l'écureuil. Vous savez, on appelait ça un Fouquet dans les régions bretonnes. Et cet écureuil, on se demande jusqu'où il va monter. Quoi non ascendet? Jusqu'où ne montera-t-il pas ? La mère de Nicolas, Marie de Maupoux, est elle aussi héritière d'une très grande lignée de magistrats. Bref, on est dans ce milieu de la noblesse de robe, de la haute magistrature, avec cette ascension donc dont Nicolas lui-même va constituer en quelque sorte on pourrait presque dire qu'il en est l'incarnation à lui tout seul. J'allais dire le dernier héritier. Peut-être pas tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce milieu parlementaire à l'époque est tout pétri des valeurs de ce qu'on appelle la réforme catholique, qui riposte elle-même à la réforme du XVIe siècle. Nicolas va être élevé chez les jésuites, au collège de Clermont. On ne peut pas recevoir de meilleure éducation à l'époque. Mais comme son frère aîné, qui s'appelle François, comme le père, comme le grand-père, etc., comme son frère aîné est promis à la magistrature, lui-même, Nicolas, va être a priori plutôt destiné à la prêtrise, à une carrière, disons, ecclésiastique. Du reste, il sera tonsuré en janvier 1635, donc à l'âge de 20 ans, et deviendra trésorier de l'abbaye Saint-Martin de Tours. Mais entre-temps, Richelieu, qui va jouer un rôle décisif dans sa destinée, Richelieu a repéré ce jeune homme. Il va conseiller à son père de lui laisser faire des études de droit. Il va donc faire une licence de droit à la Sorbonne. Et en mars 1633, le père de Nicolas est donc en position de demander au cardinal une charge de conseiller au Parlement de Paris pour le jeune homme. Il faut grimper, hein, je vous l'ai dit, chez les Fouquet, c'est véritablement, ça fait presque partie des gènes. La demande est refusée. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le frère aîné, François, justement, est déjà titulaire d'une charge similaire. Et on ne peut pas, dans l'ancienne France, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, si je puis dire. On ne veut surtout pas privilégier particulièrement une famille par rapport à une autre. Et donc, puisque François est déjà conseiller au Parlement de Paris, il n'est pas question que Nicolas le soit. Mais, dès l'année suivante, Nicolas va se voir doté d'une charge de conseiller au Parlement de Metz. Le Parlement de Metz vient d'être institué par Richelieu, c'est une nouvelle institution, mais vous voyez quand même que le cardinal ne laisse pas tomber ce jeune Nicolas Fouquet. Sa confiance envers la famille en général et envers le jeune homme en particulier est avérée, et d'autant plus que Nicolas, pour obtenir ce poste, a été obligé de demander une dispense d'âge qui lui a été donnée tout de suite, bien entendu. La mission que le cardinal de Richelieu va confier à Nicolas Fouquet, au tout jeune Nicolas Fouquet, est de vérifier dans les archives locales si par hasard le duc de Lorraine n'aurait pas empiété sur les droits du roi de France, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de territoires enclavés à l'étranger et rattachés depuis peu à la France. Vous avez bien compris qu'on cherche un casus belli pour justifier l'entrée de troupes françaises qui du reste occuperont le duché de Lorraine avant les conclusions même de Nicolas. Le jeune homme s'acquitte de sa tâche avec les honneurs. Il est tout fait pour grimper, je vous le dis. Ça vaut mieux d'ailleurs, car en 1635, inversion du destin, c'est son frère aîné qui entre dans les ordres. Alors là, on peut dire que désormais, pour Nicolas, le boulevard est en train de s'ouvrir. C'est lui qui désormais portera les espoirs d'ascension sociale de son père et de sa lignée. On lui achète aussitôt une charge de maître des requêtes de l'hôtel. Là aussi, il lui faut une dispense d'âge. Elle est accordée. En 1638, il est détaché de la cour de Metz pour aller participer au conseil souverain imposé par la France à Nancy. C'est une belle période pour lui. Il mène grand train, il assiste à la comédie, et on voit d'ailleurs déjà où vont ses goûts. C'est un fastueux mécène, Nicolas Fouquet. Il ne l'est pas encore, mais il est déjà dans cet esprit-là. Il assiste beaucoup à la comédie, au bal, il multiplie les festins. Bref, il a une nature dispendieuse, il faut le dire. Et la même année, son père, pour l'associer à ses affaires, lui cède une part dans la Compagnie des Îles d'Amérique. Ça rapporte beaucoup. C'est très bien pour le type de vie qu'il a bien l'intention de mener. Je vous ai dit qu'on était là en 1638. 1638, c'est l'année de naissance de Louis XIV. Et vous voyez que lui a donc déjà 23 ans. C'est important d'avoir à l'esprit cette différence d'âge entre les deux personnages. François Fouquet se sent proche de la mort, il pousse son fils à se marier. Alors Nicolas va jeter son dévolu sur Louise Fouché de Queillac, qui est la petite fille d'un ancien maire de Nantes. Le contrat est signé en janvier 1640 à Nantes et c'est un très riche mariage puisque Louise apporte en dot 160 000 livres, ce qui est une somme absolument vertigineuse, plus la terre de Queillac. Nicolas reçoit de ses parents la propriété de sa charge de maître des requêtes, qui elle-même est estimée à 150 000 livres, avec en plus une rente de 4 000 livres au denier 18. J'ai calculé ce matin, si je ne m'abuse, ça fait donc un capital de 72 000 livres. Enfin, tout ça fait beaucoup d'argent. De plus, Louise, comme Nicolas, a des liens de parenté en Bretagne, elle par ses parents, puisque son père est conseiller au Parlement de Bretagne, lui par des cousins et par les liens de son père avec les compagnies de commerce de l'Atlantique, je vous le disais. Là-dessus, François Fouquet va donc mourir. Il avait bien vu qu'il n'était pas bien. Au début de l'année 1641, c'est le tour du grand-père maternel de Nicolas, Gilles de Maupoux. Et voilà comment, à force de grimper et à la faveur des circonstances, on peut devenir, à 26 ans, chef de famille. Nicolas Fouquet reprend les activités de son père au sein des différentes compagnies maritimes, la Compagnie des Îles d'Amérique, du Sénégal ou encore celle de la Nouvelle-France. En 1640, il fait partie des premiers actionnaires de la Société du Cap-Nord et en 1642, il entre dans celle des Indes orientales. Autant dire qu'il est devenu, au-delà d'un grand magistrat, un homme d'affaires de haute volée.
Sur Europe 1 avec un court extrait de la bande originale du film Vatel. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Nicolas Fouquet.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à Nicolas Fouquet, dont on célèbre aujourd'hui le 400e anniversaire.
Alors c'est à ce moment-là à peu près, donc on est en 1641-42, d'ailleurs sa première femme vient à mourir là. C'est là qu'il achète la terre de Vaux, noble terre de Vaux, n'est-ce pas, en Brie, dans le bailliage de Melun, qu'il se fait appeler lui-même vicomte de Vaux à ce moment-là. Et en 1642, quand Richelieu vient à disparaître, évidemment, On se pose des questions dans la famille Fouquet, puisque vous avez bien compris qu'il était le principal protecteur de la famille. Ça pourrait bien freiner un certain nombre des rêves coloniaux et maritimes de Nicolas Fouquet. Eh bien, c'est à ce moment-là que Fouquet choisit définitivement le service de l'État. Heureusement pour lui, l'équipe ministérielle qui avait été créée autour de Richelieu reste essentiellement en place. Louis XIII est tout à fait fidèle à son ministre disparu. D'ailleurs, il va le suivre de peu dans la tombe, vous savez, l'année suivante, en 1643. Et, plus intéressant pour nous, la régente, Anne d'Autriche, maintient également en poste la plupart des grands commis. Le cardinal de Mazarin prend la succession du cardinal de Richelieu et il devient, en quelque sorte, si l'on peut dire, le nouveau patron de Fouquet. Ça pose d'ailleurs de grandes questions. Et dans un instant, avec Thierry Sarment, nous allons revenir sur les relations entre Mazarin et Fouquet. Bien entendu, c'est fondamental. Vous avez compris que pour notre homme, pour l'instant, tout continue de marcher plutôt bien. En 1644, Nicolas est nommé intendant de justice, police et finances dans le Dauphiné, à Grenoble. On pense que c'est une décision personnelle de la régente. Ça, c'est un poste assez difficile, évidemment, pour un jeune homme qui n'a pas une très grosse expérience de l'administration, qui débarque dans cette province un petit peu agitée. Or, dès le premier été, il va s'absenter, qui plus est, sans autorisation, pour aller assister à l'intronisation de son frère aîné, François, qui a été nommé évêque d'Agde. Et à ce moment-là, au moment même où l'intendant est absent, éclate une émeute de paysans, toujours pour la même raison, c'est toujours contre les levées d'impôts, ce genre d'émeute. Évidemment, ça fait tâche, comme on dirait nous aujourd'hui. Ça tombe mal. L'intendant n'est pas là, il y a une émeute. Ça, le chancelier Séguier trouve que c'est inadmissible, n'a peut-être pas tort, à moins que lui-même n'ait quelques responsabilités à faire oublier. En tout cas, Nicolas est révoqué. Qu'on se le dise, le nouveau cardinal ne plaisantera pas davantage avec la discipline que son devancier. Mazarin va se montrer inflexible. Seulement, que voulez-vous, Nicolas fait partie de ces personnes qui sont servies par les événements. Sur le chemin qu'il ramène à Paris, il est en train de rentrer, un peu penaud, vous imaginez, il vient de se voir relever de son poste. Un nouvel incident lui laisse entrevoir une chance. Voilà que, alors qu'il est à Valence, des émeutes également sont en train de se déclencher. Et là, Nicolas Fouquet va faire preuve de sang-froid, de talents oratoires qui ne sont pas à démontrer. Il a un véritable don pour la parole. Il manifeste également un certain courage personnel. Bref, il parvient à calmer le jeu et en récompense, on va le voir réintégrer dès 1646 le corps des maîtres des requêtes. Mazarin lui confie à ce moment-là une mission d'observation lors du siège de Lérida en Espagne, qui a beaucoup fait parler de lui, c'est une autre histoire. Et il va donner dans cette nouvelle mission toute satisfaction. Fouquet se voit donc nommé dès l'année suivante intendant à l'armée de Picardie, sur décision personnelle d'Anne d'Autriche. Vous voyez que la reine régente aime bien ce petit gars, si je puis dire. En 1648, il devient intendant de la généralité de Paris, et voilà que les événements continuent de le servir. La fronde donne à son poste une importance inespérée. Or, Fouquet, dans cette affaire, se range immédiatement du côté d'Anne d'Autriche et de Mazarin. Il se gagne du même coup la faveur indéfectible de la souveraine, vous pouvez l'imaginer, et lorsque les choses commencent à tourner mal, il envoie à la reine une lettre conseillant de négocier et de diviser les ennemis, attitude qu'il conservera tout au long de ce qu'on appelle la fronde. Pendant le siège de Paris, il sera chargé du service des subsistances, ce qui, au passage, lui permet de gagner beaucoup d'argent. Il ne faut jamais perdre ça de vue dès qu'on parle de Nicolas Fouquet, évidemment. De sorte qu'en novembre 1650, il va pouvoir grimper un échelon de plus en achetant pour 450 000 livres, vous imaginez, la charge de procureur général du Parlement de Paris. Alors là, on est dans la super élite de la robe. Il en profite pour contracter un second mariage. En février 1651, la nouvelle Madame Fouquet, née Marie-Madeleine de Castille-Villemereuil, appartient par son père à une famille de marchands qui sont passés à la finance, qui ont été anoblis. Lui a 36 ans, elle n'en a que 15 et demi, on va dire, à l'époque. Nous sommes là juste au moment où le Parlement, je vous rappelle qu'on est dans la fronde, dans cette espèce de révolution avant la lettre, le Parlement vote l'expulsion de Mazarin du royaume. Celui-ci a pris les devants en s'exilant déjà en Allemagne, et voilà le manège qui s'organise. Officiellement, Fouquet, procureur général, instruit contre Mazarin. C'est la mission qu'on lui a officiellement confiée. mais en sous-main, c'est lui qui tient Mazarin informé. Il faut vous préciser que son frère, Basile, qu'on appelle donc l'abbé Fouquet, est par ailleurs l'un des principaux responsables de la police secrète du cardinal. Le 31 juillet, un arrêt royal transfère le Parlement à Pontoise. Fouquet est là, c'est lui qui supervise les opérations. Vous imaginez qu'autour, la foule n'est pas favorable. Hein. Il subit les quolibets du public. Peu importe, il s'accomplit, il s'acquitte une fois de plus de sa mission. Il aura sa revanche à la fin de la Fronde, au moment du lit de justice du 22 octobre 1652. Vous savez ce que c'est qu'un lit de justice hein? C'est une séance solennelle du Parlement de Paris à laquelle assiste le roi, ce qui donne une solennité particulière et des droits particuliers à la couronne au cours de la fameuse séance solennelle. Eh bien, devant ce lit de justice, c'est Nicolas Fouquet qui prononce le grand discours louant la clémence du roi et fustigeant ceux de ses collègues qui sont restés frondés à Paris. C'est ce qu'on appelle se montrer politique ou sentir, si vous voulez, un peu mieux que d'autres d'où vient le vent. En février 1653, le duc de la Vieuville, qui est le surintendant des finances, vient à mourir. Ah, ça fait un poste très intéressant à occuper. Surintendant des finances, vous imaginez ? Fouquet est soutenu par toutes sortes d'amis financiers. Il se porte candidat à la succession. Et même si Mazarin est un peu dubitatif, et en fait il va refuser de trancher, il va nommer également le diplomate Abel Servien à la même charge. Ce qui fait que vous allez avoir deux personnes dans la charge. Fouquet, l'emporte le 7 février sur des candidats de première importance, comme il y avait là des gens comme Le Tellier, comme Mollet, enfin des gens très très importants, les maréchaux de Villeroy ou de l'Hôpital. Nicolas Fouquet devient ainsi le plus jeune responsable des finances de tout l'ancien régime. Vous voyez que la régente a tenu parole. On pourrait parler aujourd'hui d'un renvoi d'ascenseur. Or, cette surintendance est assortie d'un brevet de ministre qui permet à Fouquet de siéger au Conseil d'en haut, la plus puissante instance du régime. Je vous disais que les Fouquets étaient nés pour grimper. Là, maintenant, ça va être vraiment difficile de grimper beaucoup plus haut.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, au surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet.
Alors, il va le devenir. Il vient d'être nommé, en tout cas, en poste. Non seulement, il a la quarantaine, là, maintenant, Nicolas Fouquet. Hein, et non seulement, il est protégé par Mazarin, vous l'aurez compris, mais dans l'esprit de tout le monde, il est son successeur désigné. Dit comme ça, ça pourrait paraître une chance inouïe. Seulement, du point de vue de Louis XIV, c'est sans doute assez différent. Le jeune roi laisse à l'époque le cardinal, qui est son parrain, qui est un peu son mentor aussi, il le laisse gouverner en son nom. Mais que se passe-t-il dans le secret de sa conscience ? Il est encore un petit peu tôt pour en juger. En attendant, voyons si Nicolas se montre compétent dans ses fonctions. Jean-Christian Petit-Fils estime, je cite, qu'il connaissait mal les arcanes de la finance et qu'il était étranger au milieu des publicains. Quant à Daniel Dessert, grand spécialiste de l'histoire financière de l'Ancien Régime, lui indique au contraire que Fouquet, je cite, « était préparé à affronter la redoutable tâche des finances royales et qu'il connaissait de l'intérieur le fonctionnement de la finance ». Difficile donc de départager nos deux grands historiens. Ce qui est certain, c'est que les finances royales sont alors dans un état désastreux. Les besoins d'argent de la couronne sont immenses, à la fois pour financer la guerre et pour redresser la monarchie. Or, le trésor est quasiment en banqueroute. La situation fiscale est calamiteuse, les principaux impôts, les tailles ne rentrent plus dans les caisses, le stock de métaux précieux disponible est tout à fait insuffisant et pour faire face, Fouquet a compris qu'il va falloir restaurer le crédit de l'État. Les traitants, c'est-à-dire les fermiers, on les appelle les fermiers généraux, les autres bailleurs de fonds, ne font pas suffisamment confiance à l'État. Et pour ce faire, il va falloir respecter les contrats passés entre ces traitants et le trésor. Ça va être toute la philosophie de son ministère. Et lui intervient à titre personnel. Il met l'accent sur les affaires extraordinaires par la création et la vente de charges, la création de droits nouveaux, l'émission de rentes et de prêts, le tout dans des conditions qui sont extrêmement avantageuses. Quand je dis extrêmement avantageuses, on n'est pas loin parfois d'être dans des avantages un peu excessifs. Le principe, en gros, c'est qu'évidemment, un certain nombre de très hautes personnalités vont prêter beaucoup d'argent au trésor en échange, évidemment, de rétributions phénoménales. Et vous pouvez faire confiance à Fouquet pour être au premier rang de ses personnalités. Il est donc un peu jugé parti dans l'affaire, si vous voulez. Il impose en juillet 1653 une réévaluation de la livre tournois. Le crédit se fait à ce moment-là un petit peu plus abondant, la situation s'améliore, il y a une certaine embellie. Et alors, dès qu'il y a embellie, il y a de nouvelles dépenses. Dès 1654, la crise revient, et cette fois, Fouquet doit engager de manière importante sa fortune personnelle. En novembre 1657, il doit prendre à sa charge un tiers d'un contrat global de près de 12 millions de livres. Or, son crédit personnel lui permet de le faire, et il le fait avec un intérêt de 20%, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un intérêt à 20%. Tout ça n'est pas facile, et d'autant moins que Mazarin a l'humeur instable et qu'il doit compter avec les critiques du jeune Colbert, qui est l'intendant du cardinal. Nicolas Fouquet sent bien qu'il est de moins en moins bien vu dans les allées du pouvoir. Il offre sa démission, qui est refusée. Il ne s'entend pas vraiment non plus avec son collègue Servien. Dès décembre 1654, il avait dû demander au roi de trancher une bonne fois pour toutes. Il fallait un règlement écrit, disait-il, pour délimiter les fonctions de chacun. Alors on avait attribué les dépenses à Servien et à Fouquet les recettes. Vous imaginez la clientèle qu'un tel poste permet de se constituer. Des masses financières considérables vont passer désormais par les mains du surintendant. Les plus grands seigneurs deviennent ses amis et, disons-le, pour beaucoup d'entre eux, ses obligés. Sans compter que ses cousins Maupoux, que son propre mariage, etc., lui garantit le soutien total du milieu de la robe. Fouquet va consacrer son ascension sociale en mariant sa fille Marie avec Armand de Béthune, donc un descendant de Sully. Il la dote d'une façon impensable, j'allais dire princière, mais disons même royale, 600 000 livres de dot, vous imaginez, en louis d'or et d'argent. À la mort de Servien en 59, Fouquet est confirmé seul dans sa charge, et cette charge, il la conservera jusqu'à la suppression de la charge en 1661. Le problème, c'est que la suppression de la charge va se doubler de la suppression du bonhomme. Quand je dis sa suppression, pas tout à fait physique, mais en tout cas, vous allez voir, sa mise à l'écart, nous y venons. Donc, il faut imaginer que Colbert est là, bien entendu, dans l'ombre, qui instruit un véritable dossier contre Fouquet, qu'il déteste. Nous allons voir jusqu'où dans un instant avec Thierry Sarmant. Et cependant, la situation des finances royales reste très dégradée. Les prêteurs préfèrent prêter à la cour qu'au roi. Fouquet doit une nouvelle fois engager sa signature personnelle. Il doit consentir des taux d'intérêt considérables. Il accorde des remises. Il recourt de plus en plus aux affaires extraordinaires. En réalité, il n'existe pas de politique financière profondément différente entre Fouquet et Colbert, nous dit Daniel Dessert. Ce qui les différencie, c'est leur style, tout en nuances, en touches subtiles pour Fouquet, en coup de boutoir chez Colbert. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes caractères. On a objecté à tout ça que si Fouquet avait bien une politique cohérente, il n'a pas, comme Colbert, été l'auteur de tout un système administratif. Lui, on a presque l'impression qu'il gère les affaires au jour le jour et presque affaire après affaire. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de structuration globale derrière tout ça. En attendant, le surintendant jouit benoîtement de sa fortune. Il possède un certain nombre de grandes demeures, la maison familiale de la rue de Jouy, à Paris, une très très belle propriété, on peut dire même un véritable château à Saint-Mandé. Il y a là d'ailleurs une collection de livres absolument extraordinaire, qui surpasse, dit-on, celle de Mazarin. Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter. Et puis, à partir de 53-54, ce chantier qui va devenir, sinon le chantier du règne, en tout cas celui du milieu du siècle, la demeure et les jardins de Vaux-le-Vicomte, sur l'actuelle commune de Mincy. Ça, c'est la réunion des plus grands talents au service d'une inspiration extraordinaire. Ça, c'est beaucoup d'argent mis au service de beaucoup d'art pour donner peut-être, et nous y venons dans un instant, la plus belle maison de France. Bonjour Alexandre de Vogüé.
Bonjour Franck.
Vous appartenez à la famille qui possède actuellement le château de Vaux-le-Vicomte. Bonjour Thierry Sarmant.
Bonjour Franck.
Alors avec vous deux, nous allons revenir sur Vaux-le-Vicomte bien entendu, sur Fouquet, sur son procès, sur sa chute et sur les conclusions que nous pouvons en tirer.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
soir, nous fêtons aujourd'hui le 400e anniversaire de Nicolas Fouquet. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités. Alexandre de Voguet, directeur de la communication et du mécénat de Vaux-le-Vicomte. Et Thierry Sarment, conservateur en chef du musée Carnavalet. Auteur également, entre autres, de Louis XIV, L'univers du roi Soleil aux éditions Talendier.
Et oui, avec Alexandre Maral. Alors, je disais qu'il avait du goût, Nicolas Fouquet. On en a la preuve patente lorsqu'on se promène dans le domaine de Vaux, Alexandre de Voguet. C'est lui qui dirige véritablement l'équipe réunie sous sa direction.
C'est vrai que c'est la grande qualité que les historiens, je pense, sont à peu près d'accord là-dessus, de dire que Nicolas Fouquet était un entrepreneur et un meneur d'hommes absolument extraordinaire. Il a cette vision de vouloir rassembler autour de lui les meilleurs. Et non seulement, donc ça, à la limite, les Levaux, le nôtre et le Brun étaient plutôt connus, mais il va leur donner toute liberté d'entreprendre, de décider et de créer à condition qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ce travailler ensemble qui fait de Vaux une unité harmonieuse, architecturale et paysagère assez extraordinaire.
Alors le célèbre trio qui ensuite œuvrera pour Louis XIV à Versailles, le Vaux, le Brun et le nôtre, bien entendu, se retrouve déjà à pied d'œuvre là-bas. Il faut expliquer qu'on est dans le voisinage du domaine royal de Fontainebleau, hein, pour situer.
Oui, tout à fait, effectivement. Alors, Fouquet hérite des terres de Vaux qui appartenaient à son père, mais elles sont effectivement stratégiquement très bien placées entre Paris et Fontainebleau, ou entre Paris et Vincennes, deux demeures royales. Le nôtre était apparemment, selon les dernières recherches de Patricia Bouchon-Deschamps, qui a écrit un très beau livre sur le nôtre, était déjà là, aux côtés de Fouquet, en 1639, donc deux ans avant l'achat des terres, très tôt. Et c'est dire que finalement, Fouquet avait très vraisemblablement très tôt un grand dessein que de construire un jour une grande, grande propriété.
Alors cette demeure est éblouissante. On sait, et ça c'est votre parti Thierry Sarment, que Colbert a visité le chantier en l'absence de Nicolas Fouquet. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas?
On a la trace d'un passage en 1657 où visiblement c'est une visite assez peu bienveillante puisqu'il s'informe de ce qui se passe sur le chantier. Il va voir un peu partout et Fouquet lui-même apprend que Colbert est passé. Et demande, mais qu'a-t-il demandé, qu'a-t-il dit, quels ont été ses commentaires? Donc on peut croire que dès ce moment-là, Colbert avait une petite idée dans la tête sur la façon dont il allait exploiter les travaux de Vaux-le-Vicomte contre son propriétaire.
Est-ce qu'on est d'accord, Nicolas Fouquet était un homme d'une très grande intelligence?
Certainement, mais Colbert n'était pas sot non plus.
Mais comment expliquer qu'un homme d'une si grande intelligence ne se soit pas méfié et ait montré autant de munificence en tout du reste, que ce soit dans ses propriétés parisiennes, que ce soit dans la fortification de Belle-Île, ce qui va lui être très gravement reproché, ou bien entendu dans la construction de ce fastueux château de Vaux?
Alors il faut voir qu'il suivait l'exemple d'autres ministres, et notamment des surintendants des finances, qui affichaient un peu leur fortune et donc leur crédit, en construisant des châteaux très importants. Je pense notamment à l'actuelle Maison Lafitte, qui a été construite par le président de maison, qui était un surintendant avant Fouquet.
Et d'ailleurs, qui n'est pas mal non plus, hein, du reste.
Qui aujourd'hui est un peu diminué, mais qui, à son apogée, ressemblait beaucoup à Vaux. Et où d'ailleurs, Louis XIV et sa famille ont été reçus. Donc l'idée de visiter le château d'un ministre n'est pas uniquement l'idée de Fouquet.
Alors ça fait partie des grandes légendes de l'histoire de France. On raconte que la très grande fête donnée par Fouquet à Vaux-le-Vicomte dans une demeure qui d'ailleurs était encore pas tout à fait achevée, hein, disons inachevée. Cette fête qui a eu lieu le 17 août 1661 aurait décidé de sa perte. On connaît la phrase de Voltaire reprise par Morand, etc. À 8 heures du soir, Fouquet était roi de France. À 8 heures du matin, il n'était plus rien. Est-ce que cette fête a eu l'impact que l'on dit dans la politique française, Alexandre de Voguet?
Vous avez raison de souligner effectivement la légende, parce que ce sont ces termes et cette phrase finalement de Voltaire a construit de toutes pièces, ou en tout cas a favorisé cette légende. Et alors effectivement, comme vous l'avez très très bien dit et expliqué auparavant, le sort de Fouquet était scellé 3 mois avant la fête. Colbert est le roi.
L'ennemi de Fouquet.
L'ennemi de Fouquet. Colbert a réussi à convaincre le roi que Fouquet était l'homme à abattre. On était effectivement en pleine fronde. Et le roi avait déjà fui Saint-Germain quand il était tout jeune, traumatisé par cette expérience, se méfiait donc par définition de ces grands du royaume. Et il a donc tout simplement cru aux manigances, je dirais, de Colbert. Et son sort, effectivement, a été scellé par un complot mené de toutes pièces de Colbert et le roi. 3 mois avant la fête. La fête, évidemment, n'a rien arrangé. Autant de fastes jetés, j'allais dire, à la face du souverain.
Si je puis dire, ça a enfoncé le clou.
Exactement. Exactement.
Mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on est au moment de la prise de pouvoir de Louis XIV. C'est-à-dire que Mazarin, avec qui Fouquet travaillait très étroitement, on peut le dire, Thierry Sarment, Mazarin vient à mourir. Et on a l'impression que Fouquet ne se rend pas compte que Louis XIV a désormais l'intention de gouverner par lui-même.
Il n'a sans doute pas pris la mesure de l'ambition de Louis XIV, de son goût pour le pouvoir. Et quand Mazarin meurt, donc dès le lendemain, dès le 10 mars 1661, Louis XIV annonce au ministre que désormais il n'y aura plus de Premier ministre. Et il crée un conseil restreint où entre Michel Letellier, Hugues de Lionne et Fouquet. Et il y a un peu de flottement qui s'ensuit parce que chacun des trois se dit « Pourquoi ne serais-je pas le successeur de Mazarin ?» Et dans ses mémoires, Louis XIV explique qu'il a eu le sentiment que Fouquet se moquait de lui dans les entretiens qu'il lui accordait.
Sans le nommer d'ailleurs, hein, dans les mémoires.
Oui, il y a une espèce de...
On sait très bien de qui il parle.
Allitération, oui, voilà. Ouais. Mais il a le sentiment que Fouquet, au fond, se prépare à être Premier ministre et, procède à une espèce d'opération de communication et d'intoxication de l'opinion pour se faire déclarer Premier ministre.
C'est-à-dire que Louis XIV, à la mort de son parrain, à la mort de Mazarin, décide qu'il va gouverner lui-même. Fouquet pense que c'est une simple lubie et que ça lui passera en quelque sorte. Il n'a pas pris la mesure de la situation.
Il n'est pas le seul et du coup il va falloir un acte de violence et ce sera l'arrestation de Fouquet qui va permettre de montrer qui est désormais le maître.
Une arrestation qui a lieu le jour de l'anniversaire du roi, donc le 5 septembre 1661, et ça a lieu à Nantes. Pourquoi à Nantes?
Alors c'est une sorte de conspiration qui est nouée entre Louis XIV et Colbert. On éloigne Fouquet de Paris pour qu'il soit loin de ses fidèles, de ses clients, des courtisans qu'il a achetés, et de façon aussi à se rapprocher de la Bretagne, où il a des domaines, et notamment de Belle-Île, dont on craint qu'il fasse un réduit dans le cadre d'une rébellion qui serait un peu une nouvelle fronde.
Oui, parce qu'il a, non seulement il est propriétaire de Belle-Île, mais il a fait fortifier Belle-Île, il a fait bâtir un véritable palais à Belle-Île, enfin tout ça.
Il s'est assuré des fidélités dans la marine.
Un peu comme un homme qui voudrait se préparer un réduit pour le cas où les choses tourneraient mal, il faut bien le reconnaître.
On peut penser à une espèce de nouveau La Rochelle, si on
c'est
peut
ça, voilà,
se référer au règne de Louis XIII. Et alors, ça nous paraît surdimensionné aujourd'hui. Mais il faut bien voir que ni Colbert ni Louis XIV n'avaient les moyens de mesurer l'état de l'opinion à l'époque. Et donc, a posteriori, nous les voyons tout puissants. Eux en êtes certainement beaucoup moins persuadés.
Mais c'est ça. Lorsqu'on lit le procès Fouquet de Simone Berthière, un petit ouvrage ciselé comme toujours avec Simone Berthière, passionnant, on se rend compte qu'en fait, dans l'esprit du roi et de certains de ses conseillers, la monarchie était encore mal assise, qu'on craignait tout simplement une nouvelle fronde.
Ils ne sont même pas sûrs que s'ils donnent l'ordre d'arrêter Fouquet, l'ordre sera exécuté.
C'est ça, voilà.
D'où l'idée de s'adresser à D'Artagnan, qui est un officier peu gradé.
Mousquetaire du roi.
De façon à éviter de passer par le capitaine des gardes du corps qui était réputé acheté par Fouquet.
Alors, quelle est la part du fantasme et quelle est la part de la réalité là-dedans? Est-ce que Fouquet s'était assuré une position à ce point imprenable?
On peut en douter. On peut en douter et on peut penser qu'il y a aussi une part d'intoxication de Colbert vis-à-vis de Louis XIV. De façon à, évidemment, Colbert qui convoitait la place de Fouquet a chargé la barque.
Il a un peu fait peur au roi, probablement.
Voilà. On voit dans les papiers qui subsistent dans les archives d'Ampierre, des ducs de Luynes, qui sont les descendants de Colbert, on voit que c'est beaucoup Colbert qui tire les ficelles. Et en même temps, le roi n'est pas si manipulé qu'on peut penser, puisque toute l'affaire amène à faire qu'il n'y ait plus de Premier ministre et que c'est soit en dernière analyse, lui, qui soit le vrai patron.
Donc Fouquet, qui hier encore dominait complètement la situation, se retrouve maintenant sous les verrous, dans un premier temps au château d'Angers. On va le transférer dans diverses forteresses jusqu'à Paris. Son procès va s'ouvrir. Eh bien, nous y venons dans un instant à ce procès qui est le plus grand procès du XVIIe siècle.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est le 400e anniversaire de Nicolas Fouquet cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités Thierry Sarment, conservateur en chef au musée Carnavalet, auteur également de 1715 La France et le Monde aux éditions Perrin, et puis Alexandre de Voguet, directeur de la communication et du mécénat de Vaux-le-Vicomte.
Alors l'heure est venue de juger Fouquet. Qui va le juger? Devant quelle cour passe-t-il, Thierry Sarment?
Pour plus de sûreté, on va éviter de le faire passer devant les tribunaux ordinaires, d'autant que lui-même vient du Parlement de Paris. Donc si on le faisait passer devant le Parlement, il y aurait de bonnes chances qu'une indulgence fâcheuse se manifeste.
Ses chers confrères ne veuillent pas trop l'accabler.
Et donc Colbert invente une juridiction exceptionnelle qui s'appelle la Chambre de justice.
Ça fait penser au règne de François Ier. C'est une toute petite parenthèse que je fais, mais c'est-à-dire que lorsqu'on veut condamner quelqu'un, on crée une juridiction spéciale.
Spéciale, composée par de magistrats qui sont choisis par le pouvoir. Et pour donner une certaine solennité à cette chambre, on prend des magistrats aussi bien dans le Conseil du roi, dans le Parlement de Paris et dans toutes les cours souveraines du royaume. C'est vraiment une juridiction nationale.
Le roi suit les choses personnellement, bien entendu,
de très près. C'est un procès très téléguidé, donc les magistrats sont choisis. Et puis tout au long du procès, Colbert donne des instructions aussi bien au président de la Chambre, qui est tantôt le chancelier Séguier, tantôt le premier président du Parlement, Guillaume de Lamoignon, en leur disant d'accélérer le mouvement et puis de rendre l'affaire bien criminelle. Voilà. Et alors cette façon d'agir va avoir finalement un effet inverse à celui espéré, puisque à force d'intervention, il va finir par braquer une partie des magistrats, et notamment ce qu'on appelle le rapporteur, ça serait un peu le juge d'instruction aujourd'hui, un des deux rapporteurs qui est Olivier d'Ormesson, l'ancêtre de l'écrivain bien connu. Olivier d'Ormesson qui est arrivé sans idée préconçue, mais plutôt défavorable à Fouquet, qui à mesure de l'enquête va s'apercevoir que Colbert s'est mêlé sans aucun titre des fouilles chez Fouquet, qu'il a pu retirer des papiers, voire en rajouter d'autres. Enfin, bon,
on a fait des perquisitions sauvages, sans même prévenir Fouquet.
D'autant que les perquisitions ont commencé avant même que la Chambre de justice ait été créée. Il y a toute une phase où Fouquet est hors la loi, est un simple prisonnier d'État. Donc il y a un renversement de tendance vers 1662-63. D'Ormesson, en premier lieu, et d'autres magistrats commence à trouver que
mais D'Ormesson n'est pas le seul, puisque un certain nombre de ses confrères, mais peu à peu l'opinion publique, si tant est qu'on puisse en parler déjà d'opinion publique au XVIIe siècle, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, la rumeur publique devient de plus en plus favorable à Fouquet. Il n'est que de lire les lettres de Madame de Sévigné, par exemple.
Il faut voir que sa famille s'active pour lui, aussi ses anciens protégés, notamment des hommes de lettres, et qu'il y a toute une littérature de pamphlets qui attaque Colbert, qui défend Fouquet. Et puis, à mesure que le procès avance, on voit que l'accusation est assez mal fondée.
Alors quels sont les chefs d'inculpation? Quels sont les deux grands motifs?
Il y a deux grands motifs, alors que dans le langage de l'époque, on appelle d'un côté le pécula. Le pécula, ça serait le détournement de fonds publics.
La corruption.
La corruption. Et l'autre, c'est la lèse-majesté, puisqu'on a retrouvé à Saint-Mandé, dans cette maison de Fouquet, un plan daté de 1657, qui est un plan de mise en rébellion des domaines de Fouquet, pour le cas où celui-ci serait arrêté. Mais un plan qui n'a jamais été mis à exécution.
Bon. Disons que ça, c'est évidemment le chef d'inculpation le plus ennuyeux pour Fouquet, parce que là, il risque sa tête, et là, c'est bien une atteinte à la sûreté de l'État dont on parle.
Alors, c'est un crime qui mérite la mort, mais sauf que ce n'est qu'une pensée de crime. Et lui, sa ligne de défense sera de dire « c'était un plan que j'ai eu parce que je me sentais menacé par Mazarin ». Et évidemment, Mazarin est décédé, les circonstances ont changé, et jamais ce plan n'aurait pu être mis à exécution.
Pour ce qui est du pécula, donc de cette espèce d'accusation de corruption, les choses sont plus complexes. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que si l'on attaque Fouquet, il faut attaquer tous les gens autour, et notamment feu le cardinal.
Alors là, c'est là où le dossier devient très complexe, à la fois pour les gens de l'époque qui s'y retrouvaient mal, et aussi pour nous, puisque les règles de comptabilité d'Ancien Régime nous sont devenues très étrangères. Et à la fois, certaines pièces ont disparu depuis, et d'autres ont été quelque peu trafiqués ou supprimés à l'époque même. Donc aujourd'hui, il est très difficile de conclure, d'ailleurs les historiens qui se sont penchés sur le sujet, que ce soit Daniel Dessert, Jean-Christian Petit-Fils ou Simone Berthière, divergent dans leurs conclusions. On peut dire que Fouquet a été léger, on ne peut pas absolument être assuré qu'il est puisé dans la caisse comme... On a voulu le faire croire à l'époque.
En tout cas, s'il l'a fait, il l'a fait d'une manière qui était assez répandue, assez générale de son temps, finalement.
Il ne se singularise pas par rapport aux autres surintendants.
C'est pas un criminel, quoi, voilà. Et à la fin des débats, il va avoir quasiment retourné la cour en sa faveur. Il fait d'ailleurs des sorties qui sont magnifiques. Il assure une défense brillante. Après tout, il ne faut pas oublier qu'il était avocat général. Et il est quasiment... Alors, il ne va pas être acquitté. Entre les juges, un débat, on va dire.
Donc, il faut voir qu'on est dans une justice très différente de la nôtre. Il n'y a pas de jury. C'est une trentaine de magistrats qui se prononcent et qui votent. Et la majorité...
Certains sont pour la mort, bien sûr.
Les partisans de Colbert sont pour la mort. Et ceux qui veulent emporter de quelques voix, c'est le bannissement. Et confiscation des biens et bannissement.
Et alors, j'ai raconté ça ce matin dès 6h25 sur Europe 1. Et c'est un cas unique à ma connaissance dans toute l'histoire de France. Le roi va user de son droit de grâce, mais alors pas pour alléger la peine, pour l'aggraver. C'est incroyable.
Donc là, il commue la peine en un emprisonnement à vie. Qui aura lieu dans la forteresse de Pignerolles, qui est une citadelle française isolée en territoire piémontais.
Mais pourquoi cet emprisonnement à vie ?
Et les témoins de l'époque, avant même la conclusion du procès, pensent que relâcher Fouquet, ça serait lui donner une liberté de parole, notamment s'il partait à l'étranger. Et du coup, la possibilité de mettre en cause Mazarin, qui est un peu le père du régime actuel, puisque c'est à la fois l'homme qui a formé Louis XIV, mais aussi celui qui a lancé Colbert.
Mais que va devenir Vaux-le-Vicomte, alors, une fois le surintendant parti, Alexandre de Vauguet ?
Oui, alors Vaux-le-Vicomte, dès l'arrestation de Fouquet, est mis sous scellé. Et puis les hommes du roi vont largement se servir. Alors des biens seront vendus, des biens seront sans doute empruntés, je dirais. Et la collection de Nicolas Fouquet va disparaître du jour au lendemain d'un château qui a été l'œuvre monumentale et le modèle qui va ensuite inspirer, comme on le sait, Versailles et d'autres palais, se vide du jour au lendemain et donc cette collection disparaît. Aujourd'hui, le but est de en savoir un petit peu plus.
Oui, bien sûr, ça reste un peu un mystère quand même. Que deviendra le château par la suite ? C'est la couronne qui fait main basse ?
Non, il est donc sous scellé. En fait, la femme de Nicolas Fouquet, Marie-Madeleine de Castille, va avoir le droit de retrouver son intérieur et sa maison et sa demeure 10 ans après l'arrestation de son mari. Et donc, elle récupère le château. En 71, et va y vivre jusqu'en 1679-1780. Son fils va mourir et elle va se débarrasser et vendre le château. Elle est couverte de dettes que son mari, malgré finalement sa fortune, a laissée.
Il faisait donc, encore plus de dépenses que de recettes, si on peut dire.
Voilà.
Et on peut dire quand même qu'il y a eu quelques propriétaires illustres, hein, bien entendu.
Maréchal de Villars, grand maréchal de l'armée de France, qui a très bien entretenu et qui s'est bien occupé des jardins de Vaux. Et ensuite, les ducs de Pralin, qui par une sombre affaire de mœurs et de folie, va finir par abandonner le château jusque dans les années 1850. Avant que mon arrière-arrière-grand-père, Alfred Sommier, rachète le château aux enchères en 1875.
La fin du 19e siècle, 1875. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour ce 400e anniversaire de Nicolas Fouquet dans sa maison ? J'imagine que vous allez vous montrer à la hauteur du propriétaire.
Écoutez, on va essayer, c'est toujours difficile de se montrer à la hauteur de notre cher Nicolas Fouquet. Mais écoutez, on fait le maximum pour mettre l'accent et la lumière non plus sur le procès, comme vous l'avez encore une fois très bien expliqué et illustré, a été maintes fois finalement traité. En revanche, c'est son goût, c'est le Fouquet mécène, c'est le Fouquet collectionneur, que bizarrement les historiens jusqu'à maintenant ne sont peu préoccupés. Et donc on voudra cette année mettre l'accent sur le théâtre, sur la musique, et donc notamment par... Les Arts Florissants, qui nous font le plaisir et l'honneur de venir au mois de juillet.
Formation de William Christie.
Dirigée par William Christie, qui vont nous jouer des airs de cour au mois de juillet.
Jeudi 9 juillet.
Et ensuite, on aura Les Fâcheux. Et Les Fâcheux, donc écrits pour Fouquet par Molière en 3 semaines, la première comédie-ballet qui s'est jouée au Grido, donc dans les jardins de Vaux, se joueront 3 siècles et demi plus tard, au Grido, éclairé à la bougie avec des instruments anciens face au public.
Bravo, ça ce sera le samedi 18 juillet 2015. Les locations sont ouvertes déjà ?
Absolument, sur le site internet.
Merci beaucoup Alexandre de Voguet, merci Thierry Sarment. Dans un instant, je reçois le conservateur du patrimoine à la Monnaie de Paris, parce que la Monnaie de Paris est également concernée par ce 400e anniversaire de Nicolas Fouquet.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous recevez pour cette fin d'émission Victor Hunsbeckler, conservateur du patrimoine, responsable de la conservation et des collections historiques à la Monnaie de Paris.
On peut dire qu'aucun des grands financiers de l'histoire de France n'est vraiment étranger à l'histoire de la monnaie, finalement, Victor Hunsbeckler.
On peut le dire, en effet.
Et Fouquet en particulier.
Et Fouquet en particulier. En particulier parce qu'il est vrai que son goût, que vous avez développé un petit peu à travers vos échanges précédents, a été tout à fait stimulant et déterminant pour la formation de l'art français. Et la Monnaie de Paris, comme vous le savez, a convié en ses murs de nombreux artistes. Des artistes qui ont travaillé pour Fouquet. On peut penser à Francesco Bertinetti, par exemple, qui était le secrétaire particulier de Fouquet et qui, à la disgrâce de Fouquet, est venu travailler à la Monnaie pour créer des portraits du souverain.
Ce qu'il faut peut-être dire pour certains de nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore, c'est l'ancienneté de la Monnaie de Paris. Vous êtes la plus ancienne entreprise de France, tout simplement, ça nous ramène au 10e siècle.
Oui, c'est ça, 1150 ans environ.
Ouais, c'est 1150 ans, donc au 9e siècle, alors peut-être même non.
Oui, enfin, oui, 1150 ans d'histoire et de création artistique.
Tout à fait extraordinaire. Alors, quels sont les points forts des célébrations liées à Fouquet prévues à la Monnaie cette année ?
Eh bien écoutez, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure la question qui nous rassemble avec Vaux-le-Vicomte cette année, c'est-à-dire pourquoi tant de splendeur chez Fouquet et la question de son intelligence. Alors, vous avez évoqué également les châteaux remarquables, hein, comparable dans une certaine mesure à Vaux-le-Vicomte, comme celui de Maison. Et je crois véritablement que ce qui a distingué Fouquet parmi tous ses contemporains, c'était l'intelligence, cette capacité à s'entourer des plus grands artistes. Vous avez parlé de Le Nôtre.
Ce qu'on appelle aujourd'hui un découvreur de talent.
Oui, je crois. Vous avez parlé de Le Nôtre, de Le Vaux, il y en a eu bien d'autres, qui sont tous allés, ou presque, au service du roi. Il y a eu le cuisinier Vatel, dont on parle moins, il y a eu la Quintini.
Vous lui avez fait un petit clin d'œil, vous avez vu au cuisinier Vatel à travers la musique.
Tout à fait, il y a eu une foule d'artistes, en fait, et de grands auteurs, La Fontaine, Molière, Racine. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, qui nous tient très à cœur, et que la Monnaie de Paris partage avec Vaux-le-Vicomte, et que Vaux-le-Vicomte partage avec la Monnaie de Paris, nous organisons, pour la fin de cette année, tout un ensemble de rencontres, de conférences qui nous donnera l'occasion d'inviter les plus éminemment spécialistes des artistes dont Fouquet a été le mécène, de façon à brosser un premier panorama avant les autres recherches qui vont devoir être poursuivies dans les mois à venir et qu'a brillamment lancé Vaux-le-Vicomte. Mmh. Un premier panorama, donc, de façon à interroger, poser la question d'un Nicolas Fouquet aussi important ou pas que ce que l'on imagine pour la formation d'histoire de l'art.
Tout ça pour plutôt vers la fin de l'année, à partir de septembre.
Septembre jusqu'en décembre, avec des conférences qui seront ouvertes au public, filmées et mises en ligne sur le nouveau site de la Monnaie de Paris.
Et puis avant ça, donc, des expositions, des spectacles au château de Vaux-le-Vicomte, chez Fouquet lui-même. N'oublions pas Belle-Île dans cette affaire, qui est un tellement bel endroit et où la mémoire de Fouquet est également entretenue. Je vous rappelle que Thierry Sarment est l'auteur de 1715, La France et le Monde. C'est le livre du tricentenaire, si l'on peut dire. Thierry Sarment, vous êtes aussi co-auteur avec Alexandre Maral de Louis XIV, L'univers du Roi Soleil chez Taillandier. Et vous préparez un ouvrage. Alors, j'ai presque honte d'énoncer le titre de votre ouvrage dans une émission consacrée à Fouquet, puisque ça s'appelle Le Grand Colbert. Voilà, et bien non, on en reparlera. On en reparlera en temps utile, bien entendu.